Midi 36. On est quel jour aujourd'hui, Pascal?
Le jeudi. 9 janvier.
On est jeudi. Jour de paye.
Ah, tu te demandais vraiment, t'es quel jour? Ah, c'est ça, c'est le retour.
Les vacances n'ont pas été faciles. Noël était dur cette année. Ça coûte cher, Noël.
Oh, t'as pas dépensé tant que ça, te connaissant? T'as pas fait de cadeau à ta blonde ou d'une?
Oui, j'ai fait un cadeau à tout le monde, je pense.
Qui a magasiné celui de ta blonde?
C'est moi.
Ah oui?
Oui.
OK.
Ça a été.
Succès,
oui. Elle m'a dit que c'était le plus beau cadeau qu'elle avait jamais eu de sa vie.
Hep là, et d'après moi, tu t'es mis un chou sur la tête?
Non, c'est un certificat cadeau.
Hey, faut que je t'apporte le tien. Fais-moi penser.
C'est moins 2 degrés sur Québec. C'est un peu plus confortable que dans les derniers jours, les amis. Puis ça va rester comme ça pour les prochaines heures. Maximum de moins 2. On l'a atteint ce soir, cette nuit, généralement nuageux, avec un minimum de moins 8 degrés. Demain, vendredi, alternance de soleil-nuage avec un maximum de moins 1. Samedi, nuageux, maximum de moins 7. Et dimanche, ce sera une alternance de soleil et nuage avec un maximum de moins 4 degrés. Amenez-en des projets. Parlant de projets, un excellent projet. Mathieu Thomassin, chroniqueur automobile, salut.
Hey, bon midi à mes chers animateurs préférés, mais aussi à tous les auditeurs.
Content de te jaser, mon ami. Hier, je parlais avec des auditeurs, puis il y en a un qui m'a parlé d'un Hummer électrique.
Oui, monsieur.
T'as-tu eu la chance d'en essayer de ce type de véhicule-là?
C'est drôle que tu me poses la question, ça va avoir de l'air stagé, mais ça ne l'est pas. On est en train de terminer la production de ce vidéo-là, effectivement, d'un essai qu'on a fait. On ne l'a pas essayé au travers des mains du manufacturier habituel. C'est un fan, ce qu'on avait sur justement notre chaîne YouTube, qui a dit « Hey, j'ai ça à Québec, ça vous tente-tu d'essayer ça, les gars? »
Ouais.
Et c'est un des véhicules, et je vais revenir un petit peu dans le temps. Quand tu es journaliste automobile, tu en essaies tellement qu'à un moment donné, tu viens un petit peu, comment dire, insensible à certaines tendances de l'automobile, que tu as l'impression que c'est du réchauffé, ou encore que c'est juste du standard. Il n'y a rien d'épatant. Et je dois t'avouer que c'est un véhicule qui m'a ramené le sourire dans la face. Je ne l'avais pas eu depuis longtemps. Et même l'équipe me l'a fait remarquer, car en accélération, d'avoir un véhicule qui est au-dessus de 1000 livres de couple et avec la grosseur de pneus que ça avait, et sans oublier que c'est un monstre urbain, j'avais l'impression d'être dans une navette spatiale de... disons-le, de SpaceX. Là. J'avais l'impression d'aller me placer en orbite chaque fois que j'accélérais. C'est, comment dire, inconcevable qu'on ait créé quelque chose au nom de l'environnement comme ça, mais au nom de l'automobile, je comprends, et ça ramène quand même la passion au sein, disons, des valeurs, parce que de conduire ça, c'est macho un peu, c'est énorme. Ça a des capacités incroyables, mais on voit tout l'aspect technologique aussi que GM a été capable de mettre là-dedans.
Ouais.
Ne demandez-moi pas si ça a du sens côté prix, cependant, c'est un véhicule de niche.
C'est un genre de 160 000 de mémoire?
Ah, écoute, ça dépend des modèles, mais oui, là, c'est très, très cher, sans oublier le financement aussi, encore une fois.
Ouais.
Puis c'est oublier l'entretien général aussi.
C'est ça. C'est un véhicule qui est très, très lourd. Est-ce que sa capacité, là, je ne sais pas, au niveau du kilométrage, est-ce qu'elle est très, très élevée? C'est, on est capable de faire un 200 km, mettons?
Ah oui, facile.
Oui,
il faut dire aussi que la volumétrie de la pile va en fonction d'eux, mais il ne faut pas oublier que plus les piles sont grosses, plus ça demande de l'énergie. Plus les moteurs électriques sont gros, plus ça demande de l'énergie. Et on se rend compte que, justement, dans le temps des fêtes, on l'a vécu un petit peu, hein, on l'a souvent dit, c'est que nos bornes de 50 kW commencent à être un peu justes, malgré qu'on les appelle les bornes de recharge rapides.
Ouais.
Commencent à être un peu justes pour des véhicules comme ça, surtout lorsqu'on voyage. Et là, j'entends déjà les gens de véhicules électriques dire « Moi, j'ai pas de problème, je suis à la maison avec ma borne. » Ouais, mais une borne de niveau 2, quand tu as un Hummer électrique, là, je te confirme, ça prend un petit bout de temps à remplir de ce côté-là. Ça ne sera pas prêt en dedans de 4 heures, je te le confirme.
Tu voulais nous parler un petit peu du CES 2025. Pourquoi on entend parler beaucoup de Sony au niveau des véhicules?
Des véhicules, ben c'est simple, parce que Sony, dans le temps, avait parlé qu'il préparait un véhicule électrifié et on l'avait fait en collaboration avec Honda.
Mais Sony n'a jamais été un constructeur de véhicules?
Non, ben c'est pour ça aussi qu'on a une petite association avec Honda. Hein. Faut dire que les compagnies aujourd'hui, là, ça commence de plus en plus à vendre une idéologie d'une compagnie de mobilité. Ça, on en parlera un petit peu plus tard avec Toyota, mais on voit que dès que tu as la technologie, dès que tu as de l'électronique, ça devient comme logique un peu d'intégrer tout ça. Et Sony, ce n'est pas la première fois là, qu'ils nous en parlaient, mais là, on l'a vu enfin, leur première voiture électrique avec les précommandes qui sont ouvertes. mais en Californie seulement pour le moment. Donc, c'est deux modèles qui ont été proposés, soit l'origine et la signature qu'on appelle, des noms un peu particuliers. C'est un véhicule de luxe qu'on se positionne clairement pour rivaliser avec Tesla et voire même les modèles Lucid, avec un genre de design assez élégant et des fonctionnalités qui sont avancées. On estime environ l'autonomie électrifiée aux alentours de 480 km. Bon, selon les fameuses normes EPA, c'est pas moins de 40 capteurs et caméras embarqués à l'intérieur du véhicule pour assister la conduite semi-autonome. Tout ce qui est des systèmes de réalité augmentés vont être à l'intérieur, voire même on va toucher le monde un peu virtuel. Les tableaux de bord qui sont entièrement recouverts d'écrans numériques témoignent quand même beaucoup le futur et on confirme déjà qu'on va avoir une compatibilité avec les Supercharger Tesla, okay, avec le port NACS qui a été intégré. Et je dois avouer...
J'ai un petit blocage, Mathieu. Au niveau du volant, je ne sais pas si les auditeurs sont capables de se faire une image. Ben, regarde, je vais en faire une image, là. C'est comme un genre de si vous entrez dans le cockpit d'un 737, c'est comme un genre de volant d'avion commercial.
Oui, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, les volants.
C'est comme un U. Oui, tu as raison, Pascal. Oui. C'est comme un U.
Rappelle-toi K2000, qui est une source d'inspiration au niveau du volant.
Kit. Mais je veux dire, ça vire-tu bien? C'est une question d'habitude? On est-tu capable de faire de quoi avec ça? Parce que, je veux dire, notre volant, il est assez le fun, là, de la façon dont c'est fait. De le révolutionner comme ça, y a-tu des gens qui vont avoir une petite hésitation?
Bien, il ne faut pas oublier que Tesla avait déjà joué un peu le coup avec le modèle Yoke. On avait le Tesla Model S là, qui avait émis un volant qui était très similaire. Est-ce que ça change un peu l'habitude? La réponse, c'est oui. Là. On est habitué au volant en rond traditionnel dans lequel on recommande toujours une position des mains qu'on appelait genre un genre de 1h, 11h, en tout cas, là, peu importe là, où est-ce que vous le prenez. Il y en a certains qui allaient tout simplement placer les pouces aussi dans les creux des pouces du volant. En passant, c'est à ça que ça sert, là, la petite déformation. Et on arrive vraiment avec un volant à demi coupé comme celui-ci, dans lequel on plus nécessairement de tours aussi facilement. Mais il faut dire que les directions aujourd'hui sont beaucoup plus assistées de manière électronique, voire même qu'on varie énormément la direction qu'on va donner dépendant de la vitesse. Donc, c'est encore plus remarquable des fois sur des véhicules comme ça avec lequel le volant va être coupé. Donc, c'est une habitude à prendre. S'il y en a pour qui l'esthétique, c'est so-so, mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore des normes. Et si ça répond aux normes, ben, on va aller de l'avant tout simplement avec ça. Mais je te dirais qu'on n'est pas les premiers à faire ça quand on regarde ça. L'autre chose aussi que moi qui viens me chercher cependant, c'est les abonnements qu'on vend maintenant à l'acheteur. Donc, en plus que le véhicule, mettons qu'on prend le modèle origine qui est à 90 000 $ US, on veut vendre un abonnement pour tout ce qui va être des fonctionnalités connectées puis l'assistant intelligence artificielle. Bon, je n'ai pas tous les détails là présentement, qu'est-ce qu'ils vont faire, mais on s'en doute. Mais de là à vendre des abonnements maintenant, aïe, aïe, aïe. Et l'autre chose aussi que vous remarquerez qui ressort du style du véhicule, c'est les caméras vraiment sur le toit. Vous vous rappelez, on avait parlé dernièrement des fameux véhicules qui se promenaient du côté de Los Angeles en mode conduite autonome avec tous les radars. Bien là, on voit vraiment là, un détail sur le toit qui ressort et qui va sans doute aider à avoir une meilleure captation de la route et de l'environnement au travers de tout ça. C'est pas très, très esthétique. Et encore une fois, on pourra se demander comment ça va performer du côté hivernal lorsqu'on va rouler ça au Québec ici. Mais inquiétez-vous pas, pour l'instant, c'est juste en Californie. On verra plus tard.
OK. Mais, puis on n'a pas d'idée du prix pantoute, là.
90 000 $ US pour okay. Le modèle Afila 1 Origine et le modèle Signature, qui est comme un peu plus équipé. 102 000 $ US. Donc, c'est vraiment réservé à, encore une fois, l'élite, qu'on peut dire un peu, les véhicules de niche qui sont très chers. Je ne sais pas quelle valeur ça va conserver au travers du temps, mais ce que l'histoire automobile nous dit, c'est que quand tu es le premier à mettre la main habituellement sur un des premiers véhicules, puis que si tu t'en vas le mettre dans une bulle, dans ton sol, bien caché, il y a un risque de valoir quand même assez cher plus tard parce qu'il appartient à l'histoire. Est-ce que ça va être la même chose avec les véhicules électriques, électroniques d'aujourd'hui? C'est difficile de dire à la même hauteur qu'eux, mais c'est sûr qu'en ayant le premier véhicule de Sony, il y a toujours un acheteur assez crinqué à quelque part qui aimerait bien sans doute aussi mettre un nez là-dessus.
On me dit dans tes notes que Honda a réussi à faire un véhicule plus laid que le Cybertruck.
Effectivement, Honda, lors du CES 2025, a lancé deux véhicules prototypes. Et je dois t'avouer que le trophée actuellement, là, il est détenu par le Cybertruck pour le véhicule le plus laid. Et là, Honda arrive avec le fait qu'on pourra remettre tout ça en jeu. On regarde les prototypes et on se dit, ben voyons, à quoi qu'ils pensaient. Donc, on l'appelle le Honda Zero SUV et le Zero Salon. Quand tu regardes ça, j'ai l'impression d'être d'un mix d'un Lamborghini Countach des vieilles années en mode Blade Runner au travers le film Total Recall. Sérieux, des fois, je ne sais pas où est-ce qu'ils prennent leur inspiration. Cependant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il va y avoir un système d'exploitation qui a été développé en interne, qui s'est inspiré du robot Azimo qu'on avait fait avec une expérience de mobilité qu'on va appeler personnalisée. La conduite autonome revient encore avec des technologies avancées qui permettent une conduite qu'on appelle les yeux fermés dans certaines conditions avec une extension là, qui est prévue à d'autres situations. On mise surtout sur l'évolution logicielle mise à jour à distance. Le SUV se distingue par un genre d'espace intérieur assez flexible, une visibilité accrue, okay. Tandis que le salon, lui, c'est beaucoup plus un style sportif avec une genre de cabine spacieuse. Il ne faut pas oublier que, encore une fois, Honda s'associe avec Renesas, dis-je, pour développer un système quand même assez performant qui va optimiser le contrôle des systèmes du véhicule. Donc, on se dote de guides de développement où est-ce qu'on veut que les véhicules répondent à des désirs de mobilité du futur. Tout ce qui est les réseaux de recharge, on parle de plus en plus de réseau de recharge étendu.
Là, on dirait qu'on a pris un Cybertruck pour le fesser à coups de marteau.
Oui, et là, est-ce que c'est plus beau, est-ce que c'est moins beau? Je ne sais pas.
Mais moi, les Cybertrucks, je trouve ça cool parce que ça sort de l'ordinaire. Moi, j'aime tout ce qui sort de l'ordinaire. Mais que ce soit chez l'humain ou encore dans l'automobile, là, j'aime tout ce qui sort de l'ordinaire. Fait que le Cybertruck, je le trouve beau. Le Saloon, je vais me garder une petite réserve de le voir en personne, mettons.
Ouais, OK. Mais en passant, en parenthèse, si vous voulez être un peu excité sur les capacités du Cybertruck, notre ami Cody de Whistling Diesel aux États-Unis, c'est comme le Jerry Springer de l'automobile. En passant, si vous voulez aller voir un documentaire intéressant sur Netflix, regardez ça pour ceux-là qui ont connu un peu Jerry Springer. Il s'était dit au niveau de la TV, ben moi, je vais faire tout ce qui est exceptionnel. Hein. C'est son réalisateur principal. C'était pas nécessairement Jerry là, qui menait une balle. Ben Cody de Whistling Diesel, lui, il s'est dit, moi, tous les chars que je vais avoir, je vais toutes les pousser à la limite, les décalisser, puis faire un Jerry Springer de moi-même. Allez voir ce qu'il a fait comme test de durabilité du Cybertruck. Vous allez voir que c'est pas un doux. Au point tel que quand il est allé le faire réparer chez Tesla, on lui a demandé de signer un papier en disant qu'on se libère de toute responsabilité étant donné l'état du véhicule au travers de ça. Pour le Cybertruck, on commence à en voir quand même de plus en plus. Est-ce que c'est un véhicule qui est sans faille? La réponse, c'est non. C'est encore dessiné vite sur le coin. On n'a pas testé, mais au moins la mise à jour Baja permet de rendre le véhicule quand même assez exceptionnel et le fun. Est-ce que Honda va rivaliser avec ça? Pas en tout. Honda est dans une passe où est-ce qu'ils doivent se démarquer. Honda avait un héritage, c'est drôle parce que j'écoutais des vieux épisodes de Motor Week cette semaine où est-ce qu'on montrait un ancien Prélude, modèle SI, puis où est-ce qu'on voyait que sur une corde de 1000, ça avait du pep pour un petit moteur 2.4 litres. Et là, on arrive avec des affaires comme ça qui ne vient plus chercher l'essence du passé de Honda. Il y en a plusieurs qui crient déjà au flop. Ben, moi, j'ai hâte de voir si Honda va se réveiller pour revenir à ce qu'on aimait de cette compagnie-là au travers du temps. Mais il faut dire que les jeunes d'aujourd'hui, encore une fois, n'ont pas nécessairement les mêmes désirs de performance que moi, je vous parle présentement. En tout cas, on est dans un monde auquel il faut s'adapter de plus en plus et que ce n'est pas tous les manufacturiers qui sont capables de s'adapter. Il y a beaucoup de paris qui sont mis sur la table. On pourra parler de Jaguar un autre jour qui a vraiment manqué le bateau aussi là, avec sa destination future.
Ensuite, toujours pour le CES 2025, le BMW qui lance un système appelé Panoramic iDrive.
Oui, monsieur. Et là, je dois t'avouer que si vous trouvez que les gros écrans, ça cause une distraction, ben je vous informe que BMW repousse à l'au-delà. C'est un dévoilement d'un tout nouveau système d'infodivertissement qui intègre un écran panoramique qui s'étend sur tout le long du tableau de bord. On l'accompagne aussi d'un affichage central de bonne dimension, puis d'un affichage tête haute 3D en option. Donc 3D, j'ai hâte de voir là, comment que ça va être au feeling visuel. ça promet une expérience qui est vraiment immersive, futuriste. Donc, tout ce qui est aussi le système d'exploitation, on l'a reconçu au grand complet. C'est un logiciel de pointe qui repose encore une fois sur une intelligence artificielle avancée et on veut créer des interactions le plus naturelles possible. Fait qu'il va être lancé avec la prochaine génération des séries 3 de BMW qui est attendue plus tard cette année. Et au travers de ça, on va l'intégrer là, progressivement à tous les modèles BMW, bien entendu, après. Et là, est-ce qu'on va être attentif? Est-ce qu'on a des distractions? Est-ce qu'on va être capable de retrouver l'information rapidement? J'ai hâte de voir, mais je dois avouer que ça me fait penser un petit peu à Lincoln aussi présentement, là, ce qu'on nous affiche là, comme tout ça. Qu'est-ce qu'on aime d'un système d'exploitation d'un véhicule? C'est qu'il y a de la connectivité, une facilité d'utilisation. Et je dois avouer cependant qu'au niveau de la qualité, ça, je ne suis pas très, très inquiet. Le dernier BMW i4 que j'ai essayé avait une clarté au niveau de ce système-là. Malgré qu'il était chargé d'un paquet de choses, ça prend une courbe d'apprentissage. Et c'est ça aujourd'hui qui me fait un petit peu capoter. On devrait peut-être revenir à de la simplicité, mais les gens en veulent toujours plus à l'intérieur des véhicules.
Parmi les autres choses qui vous ont marqué, monsieur, la startup Donut Lab qui a présenté une technologie qu'on dit novatrice?
Oui, c'est effectivement. Et c'est toujours le fun aussi de voir les nouvelles pièces dans lesquelles qui vont non seulement s'intégrer à l'automobile, mais peut-être au monde justement de la moto. Et on parle peut-être, voire de même, des technologies comme de drones, parce qu'on parle de plus en plus dans le futur aussi de cette utilisation-là, et sans oublier les fameux taxis volants qui, un jour, risquent d'apparaître. Donc, Donut Motor, c'est vraiment une belle révolution. C'est qu'ils ont créé un moteur électrique intégré à la roue, qui a une puissance de 845 chevaux pour seulement 88 livres, donc 40 kg de poids. C'est un design qui est très léger, qui est modulaire, qui pourrait s'adapter aux voitures, aux motos, aux avions, aux navires. Il y a une réduction des coûts là, qui est reliée à ça avec des composantes, donc plus besoin d'armes de transmission spécifiquement. Et disons, il y a une version aussi pour des motos qui pourraient être disponibles, dans lesquelles on est capable d'avoir 201 chevaux immédiatement. Donc, c'est déjà utilisé par Verge Motorcycle. Et on a une accélération de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes. Je vous le dis, là, vous êtes mieux de watcher, la roue d'en avant risque de s'élever. Mais si on remarque la tendance aussi de la moto qui prend beaucoup de tendance, l'automobile, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, des systèmes, des modes de conduite, de l'intégration d'électronique pour de plus en plus s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction, qu'on a une bonne vitesse. Ouais. Non seulement aussi tous les éléments de sécurité pour nous éviter de faire un wheelie quand on veut pas.
Mais jusqu'où l'humain va être capable de passer au travers de tous ces jets-là quand tu pars, là?
Ben, ça, c'est l'autre question aussi, là. C'est l'habitude. Tu sais, mettons qu'on revient un peu dans le temps. Là, je recule de loin. Ma tante est arrivée avec un Altimo 3.5 V6 dans le temps, que ça marchait, là, que ça n'avait pas de sens. Là, tu te disais, mais voyons, ma tante, toi qui as toujours aimé ton petit Camry beige, là, tu arrives avec ça, et tu te rends compte que le véhicule est beaucoup trop puissant pour sa capacité de conduite et de maintenir ça dans le chemin. On revient à ça avec les véhicules électriques. Pourquoi? Parce qu'on annonce de plus en plus de puissance abracadabrante, comme 845 chevaux d'un petit moteur de 88 livres, des performances qui sont capables de nous propulser bien au-delà de la limite de vitesse de 30 km/h dans la majorité des petites villes de Québec qu'on a présentement. Et non seulement, c'est drôle, je vais faire un parallèle avec mon ami Cody de Whistling Diesel, il y a un mode Baja qui a placé sur le Cybertruck, qui a mis 100% de la puissance en avant et les moteurs électriques sont trop forts pour ce que le véhicule était capable d'endurer. Ça a tout cassé. Fait qu'on est rendu là, là, présentement. Mais est-ce qu'on devrait repousser ou encore revenir à quelque chose qui est beaucoup plus sécuritaire? Il y a un grand paradoxe présentement qui est sur la table et les véhicules électriques nous ramènent dans la mauvaise direction. Fait que j'ai hâte de voir comment on va recevoir tout ça dans le futur. Mais je dois avouer que c'est une bonne question que tu mets sur la table.
Toujours au CES, lors de la présentation de Toyota, on a rapidement remarqué que les voitures n'étaient pas nécessairement au centre de l'attention. Qu'est-ce qui s'est passé?
Aïe, aïe, aïe. J'assistais en direct à la présentation de Toyota parce qu'on nous avait dit « Allez voir ça, ça va être intéressant ». Et Toyota, au lieu de lancer une nouveauté du côté de leur véhicule, ils nous ont lancé « Woven City ». Une ville laboratoire où est-ce que les nouvelles idées et les produits peuvent être testés dans un environnement réel. Donc, on est rendu en phase 1 complétée et Toyota ne veut plus se limiter à être une simple entreprise automobile, mais on veut se positionner comme un acteur majeur de l'innovation. Donc, Woven City va accueillir des employés de Toyota, des retraités, des entrepreneurs, des animaux et plus encore. Pourquoi? Pour expérimenter toutes les formes de mobilité et de nouvelles technologies. Ça inclut des drones, des fauteuils roulants de course. D'ailleurs, on en a présenté un en vidéo. Des animaux robots, des taxis autonomes. Et on veut créer une bulle technologique pour tester librement les innovations sans être restreint. Et on invite n'importe quel inventeur à se rejoindre à cette aventure-là. J'ai trouvé ça spécial. Et le président de Toyota, qui est un fan de véhicules de course, de performance, qui lui-même prend place derrière le volant pour aller tester ses véhicules. Et là, ça a créé comme un silence dans la salle aussi, là, quand il a commencé à parler de ça. Il nous a présenté une vision d'autonomie qui s'éloigne de la voiture classique pour montrer des solutions, bon, un peu plus comme les transports, comment dire, en commun, autonomes. Mais le président, lui, il tripe sa course. Donc, s'il a trouvé à nous présenter ces deux Supra autonomes qui ont démontré leur capacité sans aucune intervention humaine, mais à faire de la drift. Et là, personne n'a comme applaudi. Là, tout le monde était là, what, qu'est-ce qui se passe? On ne comprenait pas trop pourquoi il y a des véhicules autonomes qui feraient de la drift. Tu sais, le but de la course, c'est quoi? C'est d'avoir le pilote en arrière, d'avoir la personne qui repousse les limites du véhicule ou encore qui va chercher vraiment la limite et en étant tout le temps sur la ligne de celle-ci pour démontrer ses prouesses. Et je n'ai pas trouvé que c'était très excitant pour moi et pour le président de Toyota là-dessus. Donc, la compagnie se dirige aussi vers des nouveaux systèmes d'exploitation pour ses véhicules et on veut partager ces technologies-là. C'est ça que je suis surpris. Donc, Toyota laisse aussi entendre qu'il va y avoir des projets audacieux, incluant le domaine spatial. Et on se prépare aussi à célébrer ses 100 ans, mettant en avant son ADN de créativité et de vision au-delà de l'automobile. Donc, une présentation assez particulière, tant qu'à moi.
On termine avec ça, Mathieu Thomassin, si tu le veux bien. Quand j'ai essayé l'an passé la fameuse Mustang E, là, oui. J'en avais parlé en ondes par la suite, puis là, il y a des propriétaires de Mustang qui ont dit « Yann, c'est une Mach-E, appelle pas ça Mustang, ce n'est pas un Mustang. » Et là, on apprend que la Mach-E est plus populaire que la Mustang V8 régulière.
Oui, exactement. C'est un tournant majeur historique pour Ford et les passionnés d'automobile. Il faut dire qu'aux États-Unis, en 2024, le Mustang Mach-E de 100% électrique, il a vendu plus d'unités que la mythique Mustang à essence pour la toute première fois. Donc, c'est une augmentation de 27% des Mach-E et la Mustang classique, attention à vous, a reculé de 9,5%. C'est un vrai changement de mentalité dans le monde automobile qu'on retrouve. Puis là, ce qui est assez particulier, c'est que pour le Mach-E, ce n'est pas rose présentement, là, la feuille de route. On traîne une réputation d'un véhicule qui a pas mal de problèmes mécaniques et électroniques, mais c'est une tendance qu'on remarque de plus en plus dans l'industrie lorsque des nouveaux modèles sont lancés. Puis c'est comme si les véhicules n'étaient qu'à moitié testés avant d'arriver sur le marché. Ça, je vous en parle depuis longtemps. Puis je vais faire une parenthèse. Lexus est présentement sous la mire, le nouveau Lexus GX du côté américain où est-ce qu'il fait chaud, le véhicule fond, les plastiques fondent, les miroirs fondent, les moulures fondent au soleil. Qu'est-ce qui se passe avec des véhicules qu'on paye des prix de fou puis que soudainement on se rend compte que les plastiques fondent?
Mais ils fondent pas au soleil du genre en Californie avec les feux, là. Ils fondent au soleil, un soleil normal?
Oui, au soleil normal. Hey, des chars, là, hey, rappelez-vous ce qu'on nous dit souvent. On l'a testé à moins 40, on l'a testé dans les environnements les plus chauds. On dirait que tout ça est tout fait à la course maintenant pour lancer le véhicule le plus rapidement possible sur le marché, mais on se fait rattraper avec des indices de fiabilité qui sont globalement en baisse pour l'ensemble des véhicules. Donc, en tout cas, j'ai hâte de voir, mais pour Ford de son côté, il voit l'électrification comme une nouvelle manière de réinventer l'expérience Mustang et ça marche. Et là, Marceau, je sais ce que tu m'as dit tantôt, je l'ai encore en tête, mais devine quoi, ça marche. Les jeunes d'aujourd'hui, là, et les verras pas arriver avec des côtes de cuir Camaro VS Mustang Power V8 et tirer les clés sur le bord. Peut-être dans des petits bars du coin. Des petits bars de Beauport, là, dans le coin du Chameau, des affaires de même, mais pas...
Hey, prends-toi-en pas au Chameau, tu vas en avoir des...
La question que je me pose, la question que je me pose, c'est un utilisateur de Mustang à essence versus un utilisateur de Mustang Mach-E électrique. Est-ce qu'il se dit, est-ce qu'il s'envoie le signe de la main pareil?
Non, ils veulent justement probablement pas se parler. Puis probablement que c'est pas des échanges roses qu'on a au lumière.
Tellement toxique.
Ouais. Et je vais être franc avec toi, il y a même eu des exclusions. Hein. Ça a été longtemps que les clubs Mustang officiels ne voulaient pas intégrer les Mach-E. Est-ce qu'ils l'ont fait? Les Mach-E sont rassemblés. Mais là, je me rends compte que les Mach-E vont probablement prendre le dessus. Ouais. Et rappelle-toi ce que je te disais, les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes professionnels, qu'est-ce qu'ils désirent? C'est pas un V8 5 litres. Là. Mais cependant, la personne qui n'a possédé un au travers du temps, elle ne fera probablement jamais le move non plus. Là. Donc, on est pogné dans une brouhaha de désirs qui sont très différents intergénérationnels.
Mathieu Thomassin, on te suit sur Question Auto ou Car Question sur YouTube?
Oui, allez faire un tour là-dessus dans les dernières vidéos qu'on a mis en ligne, l'essai du Toyota Land Cruiser, des performances tout-terrain assez incroyables. On prépare des petites vidéos clin d'œil là, qu'on a fait. Et mon vidéo en passant qui a été un hit pendant le temps des fêtes, c'était les belles haltes routières du Québec. Allez voir, c'est un voyage dans le temps qui nous ramène dans le passé et qui nous amène des moments assez inattendus. Là. Restez pas là trop longtemps le soir tout seul.
Okay. Salut mon ami!
Salut, bye!
Bye-bye. Quel conseil pour finir!
Ouais, il est parfait, ce gars-là!
Oui!
Faut rien changer. On fait une courte pause. D'ici là, vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021.
Marceau le midi.
Arrête de te faire marier une fois pour toi!
Ça doit être le temps de faire une pause si le monsieur...